DW. Le journal.
17h en temps universel, 19h dans nos studios ici à Bonn et partout en Allemagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande session d'information du soir de la Deutsche Welle diffusée sur nos radios partenaires. Rodrigue Guézodia, la présentation de ce journal à suivre ce vendredi 12 juillet 2019. La RDC avec la coalition politique de l'opposition Lamuka qui perd un de ses membres influents, Freddy Matungulu, nommé à la Banque africaine de développement par le président Félix Tshisekedi. Tentative de coup d'état déjouée au Soudan, l'annonce a été faite par les autorités militaires, alors qu'un accord avec les contestataires sur la transition est sur le point d'être signé dans les prochains jours. Des interrogations sur la santé de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a dû s'asseoir jeudi pour la cérémonie des hymnes nationaux avec son homologue danoise. Vous suivrez le regard de la presse allemande sur l'actualité africaine, puis les nouvelles sportives dominées par la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant le développement de tout cela, nous allons suivre avec Sandrine Blanchard la synthèse de l'actualité internationale.
Bonsoir. Là encore, chef de la diplomatie européenne en tournée au Sahel. Dans une interview accordée à la DW, Federica Mogherini appelle les États de la région à davantage lutter contre le terrorisme. L'objectif est, dit-elle, d'endiguer l'expansion de la milice État islamique en Afrique du Nord. Nous reviendrons sur ce voyage dans le courant de ce journal.
Bien entendu, la Chine annonce des sanctions contre des entreprises américaines.
En représailles à des contrats militaires signés avec Taïwan, la Chine considère ces contrats comme une violation sérieuse des accords passés avec Washington et un non-respect de sa souveraineté nationale. Les États-Unis s'apprêtent à livrer des chars et un arsenal antimissile à Taïwan. Le contrat s'élève à plusieurs milliards de dollars.
Et de son côté, la Russie a commencé à livrer des missiles à la Turquie.
Et cette fois, ce sont les États-Unis et l'OTAN qui ne sont pas contents. Washington avait menacé de prendre des sanctions si les livraisons russes avaient bien lieu à destination de l'armée turque. Donald Trump confirme par ailleurs une vaste opération d'expulsion de migrants sans papier à partir de ce week-end. Environ 2000 familles sont concernées dans un premier temps. L'opposition démocrate critique cette décision. On la croyait quasi disparue, voilà qu'elle revient en Europe. Les cas confirmés de syphilis étaient en hausse en 2018. Il y a même eu davantage de nouveaux cas enregistrés que de nouvelles infections au VIH. L'Allemagne fait partie des 5 pays dans lesquels le nombre de malades a plus que doublé depuis 2010. Les personnes les plus à risque sont les jeunes hommes âgés de 25 à 34 ans. Pour rappel, Rodrigue, la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible causée par des bactéries. Quand elle est détectée assez tôt, on peut bien la soigner à l'aide d'antibiotiques. En revanche, elle peut causer des dégâts plus graves si elle n'est pas traitée. Les symptômes commencent par une grosseur qui peut se former à la bouche, sur les parties génitales ou encore à l'anus. Au bout de 2 mois environ, le malade peut avoir de la fièvre, des maux de tête, des courbatures. Ces symptômes se résorbent souvent tout seuls, mais dans la phase 3 de la maladie, des abcès peuvent se développer sur l'ensemble du corps. Le malade risque alors de voir son système nerveux infecté et il peut même perdre le sens de l'ouïe ou encore la vue.
C'est important, Sandrine. Des pénuries d'eau dans la métropole de Chennai, c'est en Inde.
50 wagons remplis d'eau potable ont dû être acheminés dans la ville. Depuis un mois, ces 4,5 millions d'habitants manquent d'eau. De nouvelles livraisons par train sont prévues dans les prochains jours. Chennai fait partie des 21 villes indiennes qui risquent de ne plus avoir du tout de ressources en eau d'ici 2 ans. En bref, encore, les capitaines allemandes des navires Sea-Watch qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée vont être décorés par la ville de Paris. La mairie entend remettre une médaille honorifique à Carola Rackete et Pia Klemp pour réaffirmer, je cite, son soutien aux femmes et hommes qui œuvrent au sauvetage des migrants au quotidien. La cour d'assises de Palerme en Sicile a reconnu une erreur d'identité. Un érythréen a été jugé et soupçonné d'avoir dirigé un vaste réseau de trafiquants de migrants. En fait, l'homme lui-même réfugié a été confondu avec un autre qui portait le même prénom que lui. La cour a donc ordonné sa libération, mais elle a aussi assorti sa décision d'une condamnation à 5 ans de prison pour aide à l'immigration clandestine parce qu'il avait pris contact avec un passeur en Libye. Cette peine est couverte par sa détention préventive. Et puis pour terminer, puisqu'on parle d'Italie, Rome, la capitale, croule sous les déchets. Le problème, c'est que plusieurs décharges de la ville ont brûlé et que l'état d'ordure s'accumule dans les rues. Un concours a même été lancé sur Twitter pour repérer les poubelles les plus repoussantes de la ville. Les passants, eux, voient pulluler des animaux jusqu'ici plutôt inhabituels dans le centre, des rats, des goélands et même des sangliers.
C'était Sandrine Blanchard pour les nouvelles du monde. Il est 17h07 en temps universel et vous écoutez la Deutsche Welle.
DW.
Est-ce la fin de la coalition politique de l'opposition Lamuka en République démocratique du Congo après le départ d'un de ses leaders, Freddy Matungulu? Celui-ci a été en effet débauché par le président Félix Tshisekedi et nommé représentant de la RDC et des cinq pays de l'Afrique centrale auprès de la BAD, la Banque africaine de développement, dans le camp de Moïse Katumbi et celui de Martin Fayoulou. C'est la consternation après la décision prise par Freddy Matungulu alors que celui-ci s'apprêtait à diriger cette coalition. Plus de détails avec notre correspondant à Kinshasa, Salé Monami Longo.
En l'espace d'un mois, la coalition Lamuka a perdu deux de ses six leaders. Le premier a été Antipas Mbusa Nyamwisi qui a rejoint Félix Tshisekedi pour participer, disait-il, aux efforts de pacification de l'est du pays, également touché par l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, à la grande surprise de ses amis politiques, c'est Freddy Matungulu, réputé très proche de Martin Fayoulou, qui quitte Lamuka. Ce départ suscite un grand étonnement dans l'entourage de Martin Fayoulou et celui de Moïse Katumbi. Michael Tshibangu est un des proches de Moïse Katumbi.
C'est vraiment une surprise dans la mesure où il y a de cela deux semaines, et M. Matungulu faisait partie de personnes qui ont mobilisé la population pour réclamer la vérité des urnes. Et aussi lorsqu'on regarde ses commentaires contre le régime en place qu'il considérait comme un régime illégitime, et on ne peut qu'être surpris d'apprendre brusquement qu'il a accepté un poste qui lui a été offert par Félix Tshisekedi.
Dans un communiqué, Freddy Matungulu, le président de Congo Nabiso, notre Congo, son parti politique, dit prendre ses distances avec la politique active. Cela intervient à 10 jours de la réunion de tous les leaders de Lamuka, à l'issue de laquelle Matungulu aurait dû prendre la présidence trimestrielle tournante. Pour Israël Moutala, analyste politique, la réunion du présidium de Lamuka, prévue le 24 juillet à Lubumbashi, marquera sans doute un tournant dans l'avenir de cette plateforme.
L'avenir de Lamuka est compromis de manière durable, mais cette compromission de cette plateforme n'est pas irréversible. C'est-à-dire son avenir dépendra maintenant de la capacité de des leaders restants à se transcender.
Des divergences traversent actuellement la coalition Lamuka, entre tenants de la contestation de la victoire de Félix Tshisekedi autour de Martin Fayoulou et les partisans d'un rapprochement avec le pouvoir en place prôné par Moïse Katumbi. Salé Monami Longo à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Et la candidature de l'économiste et ex-ministre Freddy Matungulu, ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, doit être validée lors d'une réunion en août prochain par les ministres des Finances des pays d'Afrique centrale qu'il doit représenter à la BAD. En bref, à quelques encablures de la RDC, le Fonds monétaire international vient d'octroyer à la République du Congo, officiellement asphyxiée par la chute des prix du baril de pétrole depuis 2014, un crédit de 448,6 millions de dollars sur 3 ans. Cet appui vise à renforcer le programme de réforme économique et financière du pays. En contrepartie de son programme, le FMI sollicite aussi la transparence de la gestion des ressources publiques, plus particulièrement dans le secteur pétrolier. Il suggère par exemple aux autorités de mettre sur pied la nouvelle haute autorité de lutte contre la corruption. Au Gabon, on vient de l'apprendre, 4 responsables de la principale coalition syndicale ont été interpellés depuis mercredi. C'est ce qu'a affirmé d'ailleurs leur organisation qui avait déclaré début juillet que le président gabonais Ali Bongo Ondimba était mort. Un autre sujet à présent, le régime militaire au Soudan a affirmé avoir déjoué une présumée tentative de coup d'État, mais l'annonce faite hier soir 11 juillet cadre mal avec l'ambiance décrite ces derniers jours au Soudan. On se souvient en effet qu'il y a seulement une semaine, la population était descendue dans la rue pour manifester sa joie à l'annonce d'un compromis entre les civils et les militaires. Les explications d'Henri Fotso, le sujet débute par la voix du général soudanais Jamal Omar.
Ceci est une tentative de coup d'État militaire pour bloquer l'accord qui a été convenu par le Conseil militaire de transition et l'Alliance pour la liberté et le changement qui vise à ouvrir la voie au peuple soudanais pour parachever ses revendications.
C'est en ces termes que le général Jamal Omar, un des 7 membres du Conseil militaire au pouvoir au Soudan, a annoncé une tentative de coup d'État hier soir à la télévision nationale. Cette annonce survient alors que l'opposition politique et les militaires se sont entendus sur le partage transitoire du pouvoir et devraient signer un accord bientôt, ce qui a conduit le général Omar à préciser.
Des officiers et soldats de l'armée, des membres du service de renseignement et de la sécurité nationale, certains à la retraite, ont essayé de perpétrer un coup d'État militaire.
Le général a indiqué que les services de sécurité ont arrêté un groupe d'officiers et des officiers à la retraite qui étaient impliqués dans le coup d'État avorté. Ce n'est pourtant pas la première fois que les militaires, au pouvoir seulement depuis 3 mois, annoncent une tentative de coup d'État. Il y a un mois, ils avaient fait une déclaration similaire et affirmé avoir emprisonné 70 putschistes. À Khartoum, beaucoup de gens restent néanmoins circonspects sur la réalité de ce coup d'État. Mais Mougahid, un responsable du ministère de la Communication dans la capitale soudanaise, relève que le processus d'accord entre les civils et les militaires pourra être conclu dimanche.
Demain dans la nuit, ils vont reprendre la déclaration officielle. Et quand ils finissent, Inch'Allah, dimanche, ils signeront l'accord.
Avant cette annonce, le négociateur en chef éthiopien et envoyé spécial au Soudan, Mahmoud Drir, s'était pourtant montré confiant quant au processus de paix, évoquant même une victoire pour le peuple soudanais suite au récent compromis. Jackie Mamou, président de l'association Urgence Darfour, a parlé quant à lui d'un compromis boiteux qui ne changera rien à l'actuel édifice de répression.
Voilà, le chef de l'opposition sud-soudanaise Riek Machar s'est dit prêt à rencontrer le président Salva Kiir pour évoquer le processus de paix qui évolue très lentement, mais demande au préalable de retrouver sa liberté de mouvement selon une lettre consultée ce vendredi même par l'AFP.
Téléchargez notre application dw.com/appli.
Actualité en Afrique de l'Ouest, au Bénin, gouvernement et opposants doivent se rencontrer lundi 15 juillet pour un dialogue en vue de la résolution de la crise post-électorale que traverse le pays depuis les dernières élections législatives. Elle a été déclenchée par l'exclusion de l'opposition du scrutin du 28 avril, aucun parti d'opposition n'ayant été autorisé à présenter deux candidats. Mireille Drone, bonsoir.
Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous.
Vous avez consulté les réseaux sociaux à ce sujet.
Et oui, le dialogue entre gouvernement et opposition est à la une ce vendredi, écrit sur Twitter Henri Ndassekou, et il rapporte que dans la presse, on parle de rendez-vous de la paix et de dialogue politique fécond qui s'ouvre lundi afin de conjuguer au passé les temps difficiles. D'autres soulignent que le président Talon avait fait cette promesse le 20 mai dernier et qu'il la tient. Il invite la classe politique à un dialogue franc. Reste que les partis d'opposition sont partagés sur leur participation au dialogue. Certains posent des préalables la rencontre, à savoir la reprise des élections législatives, le retour des exilés politiques, la libération des centaines de jeunes arrêtés pour leur opinion ou pour les manifestations des 1er et 2 mai de cette année, et la restitution des corps des personnes victimes des violences post-électorales. Alors sur WhatsApp, Mohamed de Glasgow au Bénin trouve normal ces revendications de l'opposition parce que le peuple béninois est très attaché à sa démocratie et que c'est la première fois depuis 1990 que les élections ont exclu l'opposition, ce qui ne répond pas aux règles de la législation béninoise. Je pense que le président va écouter son peuple et les partis d'opposition, poursuit notre abonné, et il se dit optimiste qu'ensemble, ils trouveront un terrain d'entente pour sortir le Bénin de cette crise.
Mais d'autres sont dubitatifs, Mireille.
Oui, pour vraiment croire à ce dialogue, il faut que le président béninois satisfasse d'abord les revendications de l'opposition, affirme Amoura de Calavi, qui prévient qu'autrement, la rencontre ne donnera aucun fruit. Un avis que partage Fabrice de Cotonou. Si le président cherche vraiment à sortir le pays de la crise qu'il a créée, qu'il réalise les souhaits qu'on lui présente, suggère encore Adrien du Bénin toujours, il doit comprendre qu'il est élu pour diriger des gens plus intelligents que lui et non pas pour monter des lois visant à écarter l'opposition de la gestion du pays qui n'est pas sa propriété. Mais sur Twitter, Ferdinand Koumba dénonce ce qu'il estime être de la ruse comme mode de gouvernance. Le nombre de prisonniers augmente et des responsables de partis sont en exil. Alors qui va répondre, interroge-t-il. Des préalables sont obligatoires comme signe de volonté de paix.
Merci Mireille Drone. On vous retrouve dans quelques minutes avec un autre thème commenté par nos abonnés. Et si vous qui nous écoutez avez envie de réagir sur nos réseaux sociaux à n'importe lequel des sujets que nous développons et voir vos commentaires relayés dans nos éditions, par exemple sur Facebook, c'est très simple.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
En bref, les Algériens ont manifesté en très grand nombre aujourd'hui pour la 21e semaine consécutive contre le régime à l'issue d'une longue nuit de célébration de la qualification de l'équipe nationale pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce vendredi de manifestation massive est aussi le premier depuis l'expiration le 9 juillet du délai d'intérim à la tête de l'État confié par la Constitution durant 90 jours maximum au président de la Chambre haute Abdelkader Ben Salah, qui a d'ailleurs fait savoir qu'il resterait chef de l'État par intérim hors du cadre constitutionnel jusqu'à l'élection d'un nouveau président à une date indéterminée. La présidentielle convoquée le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika ayant été annulée faute de candidat. 19h16 ici à Bonn. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères plaide pour une solidarité internationale au chevet des pays africains du Sahel. Frédérica Mogherini vient de passer 3 jours au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et pour elle, si les efforts déployés produisent des résultats positifs, il y a tout de même eu des échecs puisque la situation continue de se détériorer. Frédéric Genome.
Federica Mogherini préfère voir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Dans l'interview exclusive qu'elle a accordée à la Deutsche Welle au terme de 72 heures de visite, la haute représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères constate qu'en l'espace de 4 années, le flux migratoire qui transite par le Niger a considérablement baissé.
Quand j'étais ici au Niger il y a 4 ans, la situation était plus grave. Plus de 300 migrants passaient chaque jour par Agadez pour rejoindre la Libye. À présent, ce sont 100 migrants par semaine. Et grâce à l'aide de l'Union européenne, l'OIM est présente et va au secours de migrants, y compris ceux qui reviennent de Libye. D'autres qui veulent rentrer dans leur pays reçoivent de l'assistance. Et ça, c'est un travail positif.
L'Union européenne apportera une aide de 138 millions d'euros supplémentaires pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel, annonce Federica Mogherini, pour qui l'Union européenne ne doit pas avoir l'exclusivité de ce soutien.
Nous appelons d'autres partenaires à soutenir les autorités du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, contre les changements climatiques et dans leur quête de développement économique et social.
Malgré les aides, l'impact reste peu perceptible sur le terrain. Des populations ayant fui leur domicile ont peur d'y retourner et les groupes terroristes se déplacent très rapidement. Federica Mogherini.
C'est vrai que beaucoup de ressources ont été investies et la situation est malgré tout en train de se détériorer. On peut dire qu'il y a un échec. Et c'est sûr, il y a des ajustements à faire, autant dans les pays concernés que de notre côté. Mais d'autre part, comment serait la situation si nous n'avions pas investi autant d'argent? Il faut dire que les pays font face à une situation qui pèse sur leur budget. Certains de ces pays consacrent jusqu'à 22% de leur budget à la défense.
En fin de mandat, Federica Mogherini conseille à son successeur de ne pas considérer l'Afrique seulement sous l'aspect migratoire, traiter les migrants comme étant des êtres humains et enfin donner des opportunités économiques aux migrants de retour dans leur pays.
Merci Frégis Kenhomme. Au Tchad, le gouvernement organise un forum sur le numérique, mais poursuit en même temps la censure des réseaux sociaux. Depuis plus d'un an, les réseaux sociaux sont en effet coupés. Pour se connecter, les internautes sont contraints de recourir à des connexions VPN pour contourner la censure. Pour les jeunes, ce forum numérique n'a donc pas de sens. On fait le point avec Blaise Dariston, notre correspondant à N'Djamena, la capitale tchadienne.
Fait le bilan des 20 années de restructuration des secteurs des postes et des communications électroniques, c'est l'objectif visé à travers ce forum. Pour le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Kalzobe Paimi Debe, cette réunion permettra d'accroître la contribution de l'économie numérique dans l'économie nationale. Mais pour bon nombre de Tchadiens, c'est un paradoxe de poursuivre la censure des réseaux sociaux et d'organiser en même temps un forum sur l'économie numérique. Abdelkirim Yacoub Koundougoumi est le chef de division Afrique centrale d'Internet sans frontières.
Ça ne sert à rien de pouvoir parler du numérique si on ferme les réseaux sociaux pour des raisons politiques. Nous conseillons à ce gouvernement de pouvoir revoir sa position. L'Internet aujourd'hui, c'est l'algorithme qui façonnera notre monde de demain, qui façonnera nos institutions, qui va réguler les marchés et qui va permettre l'expression de notre peuple dans tout le domaine économique, social et politique. Ça ne sert à rien aujourd'hui de pouvoir organiser des forums sur le numérique et faire tout pour que l'Internet devienne cher et de mauvaise qualité parce qu'on a peur de cet outil.
Une réaction que partage également Emmanuel Deub, alias Zizou, blogueur et expert formateur en réseaux sociaux.
L'accès à l'Internet fait partie des droits de l'homme. Donc on ne peut pas organiser un événement d'une telle envergure dans un pays comme le nôtre, où ça fait déjà un an que le Tchad n'a pas accès aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour la distraction, mais c'est incontournable. Je pense que c'est une insulte pour le gouvernement tchadien d'organiser un tel événement pour détourner de l'argent. Cet argent pouvait quand même servir à régler beaucoup des problèmes de l'heure. Moi, j'appelle ça un forum de la honte.
La censure des réseaux sociaux qui perdure depuis plus d'un an a valu au gouvernement tchadien plusieurs critiques, notamment des associations de défense des droits de l'homme et des partenaires du Tchad. Récemment, le représentant de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Soré, a plaidé pour la levée de la censure des réseaux sociaux au Tchad, une condition indispensable selon lui à tout financement des prochaines élections législatives et locales prévues à la fin de cette année. Blaise Daristone, N'Djamena, pour la Deutsche Welle.
Les safaris en Afrique sont très prisés, des touristes européens notamment, mais chasser les fauves peut être fatal. Un couple de Français adeptes des grandes chasses en Afrique a été contraint de quitter la gérance d'un supermarché alimentaire après que des photos d'eux posant fusil en main avec leur trophée ont été postées sur Twitter. Mireille Drone, on vous retrouve, vous avez glané des réactions. À ce sujet sur la toile.
Et oui, les photos du couple français qui pose avec ses trophées ont fait le tour des réseaux sociaux et ont suscité une vague d'indignation tournant au lynchage. Sur Twitter, Milka observe que les réseaux sociaux ont eu gain de cette passion macabre et que le couple a été obligé de démissionner. Isacho, un autre twitto, estime qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient, tandis que Patrick Lokoussou observe que Twitter est un véritable tribunal public. Notez que le lion Cécile, tué par un dentiste américain au Zimbabwe en 2015, avait déjà déclenché une vague de haine en ligne. Imaginez un Africain qui va chasser les animaux protégés en Occident, nous écrit Congo Flash sur Facebook. Je pense que toute l'Afrique serait traitée de sauvage et que sais-je encore. Lauriane souligne, elle, qu'il serait peut-être temps de remettre plutôt en cause les lois, parce que malheureusement ce sont des pratiques légales. Et c'est justement ce qui met hors d'elle Queen Alice. Ils ont payé pour ce permis de chasse, écrit-elle. Ces gens ne savent en plus que ces bêtes... Ils le savent que ces bêtes sont en voie de disparition. Et Laurent dit, lui, ne pas comprendre quelle est la satisfaction de tuer un animal pour le plaisir du trophée. Les photographier et se dire qu'on pourra les revoir un jour dans leur environnement est tellement plus enrichissant, selon lui. En revanche, Gérard Couvert estime que tout est lamentable. La presse qui relaie la nouvelle et n'ose pas dire que la mise à mort médiatique de ce couple est une ignominie, mais aussi l'absence de comparaison avec les milliers d'animaux sauvages qui sont braconnés tous les jours un peu partout.
Dans la seconde partie de ce journal, vous retrouverez votre magazine Abrapalabre, réalisé par Eric Toponan. Le débat sera animé autour de l'impasse politique qui prévaut actuellement au Cameroun. Ce sera à partir de 19h30 en temps universel. La chancelière allemande qui fêtera ses 65 ans mercredi prochain s'est assise sur une chaise hier, 11 juillet, pour la cérémonie des hymnes nationaux avec son homologue danoise. Elle avait eu la veille une nouvelle crise de tremblement, la troisième dans ce genre de situation, et a donc cette fois préféré rester assise. Désormais, l'Allemagne s'interroge sur l'état de santé de la chancelière. Kosivitiasu.
24 heures après avoir encore tremblé en public, Angela Merkel, souriante et manifestement détendue, a écouté assise sur une chaise, aux côtés de son homologue danoise et également assise, les hymnes nationaux de leurs deux pays joués par la fanfare militaire. C'était sous l'œil des caméras et du public massé devant les grilles de la chancellerie. Une heure après son dernier tremblement, mercredi dernier, Angela Merkel s'était présentée calme et objective, sans grande émotion, avec un léger sourire.
Je vais bien, je l'ai dit l'autre jour, je suis dans une phase de traitement des récents tremblements lors des honneurs militaires avec le président Zelensky d'Ukraine. Ce n'est évidemment pas encore complètement terminé, mais il y a des progrès et je dois vivre avec cela pendant un certain temps encore. Ça va, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Pourtant, son état de santé inquiète. Angela Merkel a attribué ce tremblement à répétition à une réaction psychosomatique liée à l'anxiété suscitée par sa première crise. La chancelière est-elle malade? Tout le monde se pose la question. Au lendemain du dernier malaise, la Bild Zeitung, le tabloïd allemand le plus lu, titrait « Ça ne s'arrête pas ». Le psychologue et politique Thomas Cliché demande ainsi plus de transparence sur son état de santé.
Si nous choisissons quelqu'un et lui donnons le pouvoir de diriger, nous devons aussi espérer et penser qu'une telle personne fasse la transparence sur son état de santé. À ce sujet, il y a des règles de substitution en politique, ce qui signifie qu'il y a des dispositions institutionnelles en cas de maladie.
Le quotidien Bild, se basant sur des sources proches du gouvernement, assure que la chancelière a effectué des examens médicaux, notamment sanguins, après sa première crise, la plus impressionnante. Toujours selon ce tabloïd, les examens sanguins n'ont révélé aucune carence, notamment minérale.
Et on en arrive à notre rubrique Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande. Sandrine Blanchard, on commence par une analyse sur la fréquence des coups d'État sur le continent africain.
Les gouvernements sont plus souvent renversés par la force en Afrique que n'importe où ailleurs dans le monde. À quoi est-ce que ça tient? Voilà le constat et la question que se pose la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Au Soudan, en Algérie, au Gabon, en Éthiopie, 75% des tentatives de coup d'État dans le monde ont lieu en Afrique. C'est ce qu'a mesuré une étude britannique qui a analysé l'instabilité due aux indépendances, à la guerre froide et aux rivalités des grandes puissances occidentales sur le continent. L'étude établit une corrélation entre le taux de démocratisation et la baisse du nombre des putschs. En revanche, plus les dirigeants s'accrochent au pouvoir et plus les risques de renversement de leur régime par les armes sont importants. À lire aussi dans la FAZ une explication de la ZLEC, la zone de libre-échange signée au sommet de l'Union africaine à Niamey par 54 États sur les 55 membres que compte l'institution. La ZLEC représente plus d'1,2 milliard d'habitants et donc de consommateurs potentiels, un marché gigantesque, écrit pour sa part la Süddeutsche Zeitung, qui prédit que l'Afrique du Sud devrait sortir grande gagnante de la ZLEC, elle qui a déjà une industrie et une économie de services développée. Autre thème qui intéresse les éditorialistes allemands, le report annoncé par Paris de la restitution des œuvres d'art spoliées durant la période coloniale. Le président français s'est vraisemblablement rendu compte qu'il serait difficile de tenir sa promesse de restitution, estime la FAZ, confronté à la résistance des musées de son pays, à la loi, mais aussi aux coûts engendrés par ces opérations. L'hebdomadaire Die Zeit note, dans une interview avec le galeriste bruxellois Didier Klaas, le regain d'intérêt pour l'art tribal sur les marchés internationaux. Le galeriste qui dit comprendre que les Africains, qui ont été, je cite, « réduits en esclavage, colonisés, pillés, exploités, réclament désormais qu'on leur rende leurs œuvres, quitte à les prêter ensuite aux musées intéressés en Europe, comme c'est le cas pour des œuvres du Mali, qui sont prêtées au Louvre pour une durée de 100 ans.
Sans transition, les nouvelles sportives, et c'est un week-end très sportif qui attend nos auditrices et nos auditeurs, avec notamment les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dérouleront au Caire, à l'Ifarat.
La première demi-finale qui opposera le Sénégal à la Tunisie se déroulera au stade du 30 juin, une rencontre qui s'annonce palpitante, portée par des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Ganagay, sans oublier bien évidemment Sadio Mané. Les Lions sont légèrement favoris, car meilleurs sur le plan physique que leur adversaire. Mais attention à la Tunisie qui retrouve les demi-finales de la compétition pour la première fois depuis 2004 et qui est enfin entrée dans son tournoi. Outre la victoire 3-0 contre Madagascar, les Aigles de Carthage ont montré qu'ils avaient de nombreuses qualités techniques et que des joueurs comme Ferjani Sassi, Wabi Kazri ou encore le capitaine Youssef Msakni étaient capables de faire la différence. Sénégal-Tunisie, ce sera dimanche à partir de 16h en temps universel. Juste après cette demi-finale, direction le stade international du Caire pour le choc entre le Nigeria et l'Algérie. Hormis leur défaite en phase de poule face à Madagascar, les Super Eagles sont affichés le visage d'une équipe plutôt confiante et cohérente. Alex Iwobi et consorts sont prêts à en découdre avec cette équipe d'Algérie qui a été poussée dans ses retranchements par la Côte d'Ivoire. Toutefois, les Verts pourront compter sur leur attaque de feu emmenée par Riyad Mahrez ainsi que sur leur défense de fer. Pour rappel, le but de Jonathan Kodjia a été le premier et le seul que Raïs Mboli a encaissé durant cette CAN 2019. Le portier algérien qui a concédé un premier but après 422 minutes d'invincibilité. Tout comme pour Sénégal-Tunisie, cette demi-finale promet d'être très disputée. Nigeria-Algérie, ce sera à partir de 19h TU. Outre le football, il y aura aussi du cyclisme avec la suite du Tour de France, sans oublier le tennis bien sûr avec la fin du tournoi de Wimbledon. Demain, dans la finale dames, Serena Williams sera opposée à Simona Halep. Si elle l'emporte en finale, l'américaine égalera le record de victoires en Grand Chelem détenu pour le moment par l'australienne Margaret Court avec 24 tournois remportés. En bref, Serena Williams est à rien d'écrire encore un peu plus sa légende.
Il est déjà 17h30 en temps universel. Ainsi prend fin la première partie de ce journal consacré à l'actualité.